Vous écoutez, on lit pour vous.
Les Québécois de plus en plus climatisés. Un texte de Jeanne Claveau-Laviolette, paru le 8 juillet 2025 dans la presse. Près de 7 Québécois sur 10 possèdent un appareil de climatisation à la maison, selon une étude publiée mardi. Une proportion qui augmente sans cesse d'année en année. Jadis un luxe, aujourd'hui la norme. L'air climatisé est de plus en plus répandu dans nos maisons. C'est un peu plus de 69 % des ménages québécois, sondés par Statistique Canada, qui possèdent un climatiseur ou une thermopompe en 2025. Il s'agit d'un bond de 10 points de pourcentage par rapport à 2019, où 59 % des Québécois déclaraient avoir l'un des deux types d'appareils de climatisation. En 2013, à peine 54 % des ménages au Québec disposaient d'un climatiseur. Que dit la science? Toujours selon la même étude, de mai à octobre, la température moyenne d'un foyer canadien possédant l'air climatisé est de 21,3 degrés Celsius. Dans la région de l'Atlantique, elle est plutôt de 19,8 degrés Celsius. Gare aux températures trop froides, avertit toutefois l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. La surclimatisation, c'est une utilisation des températures trop basses sur une durée trop longue qui va avoir des effets négatifs sur la santé, explique le conseiller scientifique à l'INSPQ, Patrick Poulin. Il est donc plutôt recommandé de viser une température entre 22 et 25 degrés Celsius afin d'éviter une différence trop importante à la sortie à l'extérieur. Lorsqu'on reste toujours au froid durant de longues périodes, on perd en adaptabilité, ajoute M. Poulin. Notre corps, c'est une machine d'adaptation fantastique. Sauf que pour ça, il faut qu'on soit exposé à des chaleurs, renchérit son collègue Stéphane Perron, médecin conseil dans la même équipe. En plus de bienfaits sur le plan du confort, l'air climatisé est un atout pour ceux souffrant d'allergies et pour les plus vulnérables à la chaleur intense. Le mot d'ordre de l'INSPQ est donc le suivant. Entretenez vos climatiseurs pour assurer une bonne qualité de l'air. Préférez de courtes périodes de climatisation à de longues périodes sans pause et surtout, hydratez-vous. Pour les propriétaires et les plus riches, la tendance à la climatisation n'est pas unique au Québec, mais commune à presque l'ensemble du pays où un peu plus des deux tiers, 68 % des ménages, climatisent leur maison. Tout de même, d'une province à l'autre. Le recours à l'air climatisé n'est pas le même. Les Ontariens sont les grands champions du nombre de ménages ayant recours à l'air climatisé, soit 4 sur 5, 83 %. Loin derrière se trouve la Colombie-Britannique, où seulement 45 % des foyers sont climatisés. Autre constat. Les plus riches, soit ceux gagnant plus de 150 000 $ avant impôt, sont plus susceptibles de posséder un appareil de climatisation, 82 %. À l'inverse, les moins nantis, soit ceux gagnant moins de 50 000 $ avant impôt, le sont moins, 55 %. Dans la même lignée, 76 % des propriétaires d'un logement possèdent un climatiseur contre 52 % des locataires. L'enquête a été réalisée par Statistique Canada auprès de 20 000 personnes dans 10 provinces entre février et avril 2025. C'était « Les Québécois de plus en plus climatisés », un texte de Jeanne Claveau-Laviolette, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse.
L'Alcatraz des alligators, spectacle politique ou camp de concentration? Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir. L'Alcatraz des alligators, tel est le surnom donné par la Maison-Blanche à ce centre de détention de migrants qui a poussé en une semaine dans une région de la Floride, surtout connue jusqu'à maintenant pour son potentiel touristique. À une heure du quartier des affaires de Miami, une piste d'atterrissage d'un aéroport désaffecté a été transformée en quelques jours en prison, à grand renfort de barbelés, de clôtures et d'agents de sécurité. Au moment même où son méga-projet de loi budgétaire traverse une étape cruciale à Washington, Donald Trump l'a visité le 1er juillet 2025 et elle devait accueillir ses premiers migrants le lendemain. Que représente ce centre de détention? Décryptage. Lors de la visite du président américain, le ton était à la rigolade. Un influenceur pro-Trump, Benny Johnson, s'enthousiasmait sur ses réseaux sociaux devant les produits dérivés de l'endroit, T-shirts et autres, déjà en vente. La porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Abigail Jackson, a même fait générer une vidéo par l'intelligence artificielle d'alligators affublés de chapeaux de la police douanière américaine, désignés par l'acronyme ICE, dansant sur la chanson Ice Ice Baby. C'est M. Trump lui-même qui s'est moqué des personnes qui voudraient s'en échapper, faisant référence aux marais avoisinants qui seraient, selon lui, infestés de bêtes sauvages. Ne courez pas en ligne droite. Il a plus tard plaisanté sur le fait qu'il n'aurait pas à payer les alligators. Sa traditionnelle casquette MAGA vissée sur la tête, la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, riait aux éclats devant les caméras à la vue des lourdes clôtures de métal entourant des lits superposés installés dans des tentes et des bâtiments modulaires posés à même le tarmac. Déshumanisation. C'est un show, un spectacle aux dépens d'humains, se désole Elisabeth Vallette, professeure d'études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle n'hésite pas de son côté à parler de « camp de concentration » pour décrire l'endroit. C'est fait pour rassembler, concentrer des gens hors du droit. Et c'est là qu'on s'enligne actuellement aux États-Unis. On parle d'un « vol de non-retour ». Le vocabulaire, le visuel et l'intention correspondent à des « camps », décrit cette spécialiste des murs frontaliers qui tient aussi chronique au devoir. Elle n'est pas la seule à dresser ce parallèle. Andrea Pitzer, ancienne journaliste et autrice d'un livre sur l'histoire des camps de concentration, a aussi noté leur similarité sur les réseaux sociaux. Détention de masse de civils, sans procès ou protection légale traditionnelle, sur la base de leur identité, race, religion, ethnicité, affiliation politique, plutôt qu'à cause d'un crime, pour une période indéterminée et réalisée principalement pour étendre le pouvoir politique. Ce nouveau chapitre dans la course à l'expulsion d'un million de personnes inquiète profondément Mme Vallette. Il y a à la fois cette mise en scène et une volonté de déshumanisation violente. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Faire du mal volontairement. À ses yeux, les marais des Everglades sont l'un des pires endroits pour détenir des gens en raison du climat très chaud et humide, ainsi que des risques de météo extrêmes. C'est un lieu où personne ne voulait aller, dans lequel les tribus autochtones ont été repoussées par les colons américains, expose la professeure. C'est un symbole de faire du mal volontairement, qui vise des gens, qui travaillent, qui ont des enfants et qui paient des impôts, poursuit-elle. Les récentes opérations de l'ICE semblent en effet cibler de plus en plus large, bien que le gouvernement Trump ait auparavant promis de prioriser les « criminels dangereux ». C'est assez cruel et inhumain, et je pense que c'est la raison pour laquelle cela a été conçu, a déclaré à ce sujet le porte-parole de la Florida Immigrant Coalition, Thomas Kennedy. Les personnes arrêtées récemment obéissaient souvent aux lois migratoires. Il faut dire qu'on leur a retiré leur statut, on les a illégalisés, précise Mme Vallette, en faisant notamment référence au décret mettant fin au statut temporaire de centaines de milliers de personnes. Lors de son premier mandat présidentiel, Donald Trump avait parlé plusieurs fois en privé de créer des douves remplies de serpents et d'alligators à la frontière des États-Unis avec le Mexique, demandant même une estimation des coûts de telles mesures à son personnel, avait rapporté le New York Times. C'est aussi lors de ces réunions qu'il avait suggéré de « tirer dans les jambes » des migrants qui tentent de traverser la frontière, ce qui contrevient au droit international. De l'argent pour l'appareil répressif. Le moment de la visite du centre de détention à 1000 km de la capitale états-unienne était aussi choisi pour M. Trump, souligne la professeure, car son méga-projet de loi budgétaire traverse une étape cruciale. Si cette loi repasse le test de la Chambre des représentants, la version révisée de l'immense texte de loi prévoit 170 milliards de dollars américains pour des dépenses reliées à l'immigration jusqu'en septembre 2029. Le pactole inclut 75 milliards pour l'ICE, qui devra alors consacrer 45 milliards de dollars à la détention de migrants. Elle deviendra alors l'agence d'application de la loi la mieux financée à l'échelle fédérale, selon l'American Immigration Council. En comparaison, le budget de l'ICE consacré à la détention se chiffre à 3,4 milliards par an en ce moment. C'est que la capacité de détention de l'ICE est actuellement limitée à un peu plus de 40 000 places et son nombre d'agents d'expulsion oscille autour des 6 000. Le suprémaciste blanc Stephen Miller, l'architecte des politiques anti-immigration de M. Trump, veut voir la cadence des arrestations passer à 3 000 personnes par jour, ce qui ne pourra se faire sans une expansion de la police migratoire américaine. Le centre de détention des Everglades peut actuellement enfermer 3 000 personnes, mais des ajouts feraient bientôt grimper sa capacité à 5 000. Le nombre d'arrestations de migrants a d'ailleurs grimpé en juin, selon le professeur et analyste Austin Kosher. C'est une véritable armée d'expulsion à partir des agences locales et celles des États que Trump est en train de construire, avait-il d'ailleurs déjà dit en entrevue au Devoir. Dans le cas de l'Alcatraz des alligators, il s'agit aussi d'une initiative du gouverneur de l'État de Floride, Ron DeSantis, soutenu par le gouvernement fédéral à travers des fonds d'urgence. Aux yeux d'Elizabeth Vallette, l'ICE est devenu une véritable police politique qui agit de manière spectaculaire et dans l'impunité. Alors que les juges perdent de leur pouvoir, c'est de plus en plus patent, analyse-t-elle. La promesse d'un déluge d'argent dans un avenir prévisible représente aussi aux yeux de certains une opportunité capitaliste du big business pour l'industrie carcérale américaine, qui fait ensuite lobby, dit l'experte. Au début de l'année, 86 % des personnes détenues par l'ICE se trouvaient en effet dans des installations gérées par des entreprises à but lucratif, selon une compilation effectuée par TRAC, une organisation non partisane de recherche et de collecte de données. C'était l'Alcatraz des alligators, spectacle politique ou camp de concentration. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir.
Lecture d'été. Les coups de cœur de l'équipe de Franco-Presse. 6 suggestions de lecture de l'équipe de rédaction parues le 5 juillet 2025 dans le Franco. Romans, BD, livres jeunesse, essais. Voici quelques suggestions de lecture choisies par notre équipe pour accompagner votre été. À savourer au soleil, à l'ombre, sur l'eau, en camping ou simplement dans votre salon. Bonne lecture. 1. Baignade, d'André A. Michaud. Imaginez des vacances au camping tant attendues, au bord d'un lac, au cœur de l'été québécois, chaud et humide. Un père, une mère, leur petite fille. Alors que cette dernière se baigne nue dans le lac, le propriétaire crie au scandale. Plus tard, un autre incident pousse la famille à fuir en pleine nuit, sous l'orage, à bord de leur énorme VR. Les premiers dominos d'une suite d'événements menant droit au cauchemar. Un cauchemar de forêt dense, de pluie, de lucioles et de trouvailles, retrouvailles inattendues. Dans ce polar, on entre tour à tour dans la tête de chaque protagoniste, bon comme méchant. Le tout servi par une écriture fluide, entêtante, qui nous amène du passé au futur, en plongeant dans le présent étouffant. De quoi bien nous tenir en haleine, même quand on pense avoir trouvé l'issue. Par Camille Langlade. 2. Les falaises, de Virginie de Champlain. Une jeune femme revient dans sa Gaspésie natale, au Québec, lorsqu'elle apprend que le corps de sa mère a été retrouvé sans vie sur une plage du fleuve Saint-Laurent. Avec sa sœur et sa tante, elle entreprend de vider la maison familiale, mais décide d'y rester afin de se plonger dans les souvenirs. Elle découvrira l'histoire de sa mère, mais surtout celle de sa grand-mère, à travers les journaux de celle-ci. Ce roman dépeint avec sensibilité et réalisme la difficile communion entre trois générations de femmes. Il y a question d'héritage et de racines. Où les planter pour se sentir vraiment chez soi, surtout quand on a soif d'ailleurs? Les falaises, c'est un beau voyage poétique, tempétueux et mélancolique qui vous transportera de la Gaspésie à l'Islande. Par Marine Ernoult. 3. 500 ans de résistance autochtone, de Gord Hill, traduction de Marie C. Scholl Dimanche. Une bande dessinée éducative pour adultes n'est pas une suggestion de lecture d'été classique. Mais 500 ans de résistance autochtone est un incontournable pour tous ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire commune des Autochtones de l'Amérique et des colons européens. Gord Hill présente les moments importants sans compromis, sans tenter d'adoucir l'histoire d'un côté ou de l'autre. Les événements sont racontés de façon succincte, ce qui permet de découper facilement les périodes de lecture. Les dessins, parfois crus, sont pour un public averti. Par Julien Caillouette. 4. Edgar Payette, de Simon Boulris. La famille Payette compte deux fils bien différents l'un de l'autre. L'aîné, Henri, arrive à l'adolescence. Il est timide et prévoit déjà mener un jour une sérieuse carrière de dentiste, comme ses parents. Edgar, lui, est tout le contraire. Flamboyant, doué d'un fort sens de la mise en scène et débordant de créativité. À tel point que son grand frère ne le trouve pas de tout repos et voudrait bien, lui aussi, être le centre d'attention à l'occasion. Inspiré d'un vrai jeune garçon, le roman Edgar Payette s'adresse à un public de 9 ans et plus, mais son histoire fait chaud au cœur et rappelle, même aux adultes, que parfois il faut essayer de voir la vie avec les yeux de l'autre et que souvent la différence n'a pas d'importance et aussi qu'après tout, le ridicule ne tue pas. Par Martine Leroux. 5. L'affaire Cannon, de François Charbonneau. En 1945, George Cannon et sa femme, Lillian, se voient interdire l'accès à la salle à manger du Château Frontenac à Québec à cause de la couleur de leur peau. En 2020, une chronique du Devoir traitant de ce morceau d'histoire fait sourciller le professeur et essayiste François Charbonneau, qui commence alors sa quête pour la vérité. Un travail qui devrait faire l'envie de tout journaliste. Important, son ouvrage participe à la lutte contre la réécriture de l'histoire. Il rend justice aux Canadiens français de l'époque, dont le véritable rôle dans cette histoire méritait d'être raconté, ainsi qu'à la mémoire du Dr Cannon, figure emblématique de l'histoire afro-américaine. Le livre nous plonge dans les aventures parallèles, mais désormais inextricablement liées, du chercheur persévérant qu'est François Charbonneau et du médecin courageux que fut George Cannon. Un livre passionnant et éclairant qui intéressera les amoureux et amoureuses de la vérité. par Marianne Despelleteaux. 6. Talleyrand, le prince immobile, d'Emmanuel de Varesquiel. De Louis XVI à Louis-Philippe Ier, en passant par la Révolution, Napoléon Ier, Louis XVIII et Charles X, Talleyrand a été le conseiller, le négociateur et le stratège de toutes ces autorités. Il savait traiter avec les grands de ce monde et les manipuler, souvent à leur insu, en s'imposant comme l'homme de la situation, l'indispensable, même si, parfois, ses maîtres le détestaient. Talleyrand savait aussi se faire haïr comme pas un. Emmanuel de Varesquiel plonge très profondément dans le vécu de ce géant de l'influence pour nous décrire les moindres détails de son parcours extraordinaire. Par moments, on est cependant inondé d'informations qui peuvent rendre la lecture ardue. Si l'on peut passer outre et faire preuve de patience, la récompense sera de découvrir cette période mouvementée de la France comme si on la vivait de l'intérieur. Et on reste estomaqué par la vie hors du commun de ce personnage hors norme. Par Marc Poirier. C'était Lecture d'été, les coups de cœur de l'équipe de Franco-Presse. 6 suggestions de lecture de l'équipe de rédaction, paru le 5 juillet 2025 dans le Franco.
La charte de l'ONU, un document fondateur foulé aux pieds depuis 80 ans. Un texte de Amélie Botelier-Depoix de l'Agence France-Presse, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir. Voulant préserver les générations futures du fléau de la guerre, 50 pays signaient le 26 juin 1945 la Charte des Nations Unies établissant les grands principes des relations internationales, un document fondateur allègrement violé depuis 80 ans. C'est plus que du papier et de l'encre. C'est une promesse de paix, de dignité et de coopération entre les nations, a insisté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. San Francisco. En pleine Seconde Guerre mondiale, les Alliés signent à partir de 1941 une série de déclarations traçant les lignes directrices de la future Organisation des Nations Unies. Mais c'est lors de la conférence de San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945 que la charte est rédigée puis signée par les 50 délégations présentes. Après la ratification du texte par la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis, futurs 5 membres permanents du Conseil de sécurité et la majorité des autres signataires, l'ONU devient réalité le 24 octobre 1945 avec 51 pays fondateurs. Des grands principes. En 19 chapitres et 111 articles, la Charte édicte les buts et principes qui doivent régir les relations internationales. Règlement des différends par des moyens pacifiques, souveraineté, égalité entre États, coopération en matière humanitaire, respect des droits humains. En cas de menace contre la paix internationale, le chapitre 7 donne au Conseil de sécurité le pouvoir d'imposer des sanctions pour faire respecter ses décisions, voire de déployer des moyens militaires. La Charte crée également les principaux organes de l'ONU, notamment le Conseil de sécurité, avec ses 5 membres permanents disposant d'un droit de veto, l'Assemblée générale et le secrétariat, ainsi que la Cour internationale de justice. Tout État qui accepte les obligations de la Charte peut devenir membre, mais son adhésion peut être bloquée notamment par un membre permanent du Conseil. L'ONU compte aujourd'hui 193 États membres. La charte est très difficile à modifier. Un amendement nécessitant la ratification par 2/3 des membres de l'ONU, dont les 5 membres permanents du Conseil. Allègrement foulé aux pieds. Les principes de la Charte sont sans cesse violés à travers la planète depuis 80 ans. mais qualifier un événement de violation fait très rarement l'unanimité, variant au gré de l'histoire, des relations diplomatiques et des interprétations du texte. Certains principes entrent parfois en collision, ouvrant la voie à des argumentaires contradictoires comme droit à l'autodétermination des peuples contre non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État ou encore légitime défense contre interdiction des actes d'agression. Dernier exemple en date, Téhéran, soutenu notamment par la Chine, a accusé Washington d'avoir violé la charte en frappant des sites nucléaires iraniens en juin 2025, tandis que les États-Unis mettaient en avant le droit collectif à la légitime défense en accord avec la charte. La communauté internationale ne s'est jamais vraiment occupée de cette question du crime d'agression, que ce soit pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou celle de l'Irak par les États-Unis. Note Guy Sounia du Centre de réflexion Atlantic Council qui déplore que cette impunité soit alors utilisée par d'autres pour justifier leurs actions. Quant à la légitime défense qui mérite de montrer des preuves d'une attaque imminente, c'est une des questions les plus controversées de la Charte, indique-t-elle à l'AFP. L'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis février 2022 a été dénoncée comme une violation claire de la Charte par Antonio Guterres et l'Assemblée générale, mais pas par le Conseil de sécurité où la Russie dispose d'un droit de veto. Après l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, le secrétaire général de l'époque, Kofi Annan, avait jugé cette guerre illégale. La Charte prévoit que si un État enfreint de façon persistante ses principes, il peut être exclu de l'organisation, mais cela ne s'est jamais produit. En revanche, en 1974, l'Afrique du Sud avait été suspendue de son droit de participer à l'Assemblée générale par cette dernière, qui avait mis en avant les violations constantes de la Charte par le régime de l'apartheid. C'était la Charte de l'ONU, un document fondateur foulé aux pieds depuis 80 ans, un texte de Amélie Botelier-Depois de l'agence France-Presse, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir.